Mandrin. Première partie, chapitre 17. Une parole engagée à la légère. Lorsque Bourré d'Érigny réintégra son château des Aigles, le premier spectacle qui frappa ses yeux fut celui de Monsieur et Madame Malissé qui, debout sur le perron, semblait guetter son retour avec une vive et d'ailleurs fort compréhensible impatience. Derrière eux se tenait la petite servante Martine, non inquiète certes du sort de Nicole, mais non moins désireuse que ses maîtres d'avoir de ses nouvelles. À la vue de Bourré d'Érigny, et avant même qu'il fût descendu de cheval, Madame Malissé se précipitait vers lui en criant « Et ma fille ?» Le fermier général, dont sa longue randonnée n'avait point apaisé les nerfs, sauta à bas de sa monture et, haussant les épaules, il allait passer outre, sans s'inquiéter de celle qu'il croyait légitimement sa belle-mère. Mais celle-ci, outrée d'une pareille attitude, la bouillante Thérèse le saisit par le bras. « Monsieur, fit-elle, je vous parle. »« Et moi, madame, je ne vous parle pas, » lança M. d'Érigny d'un ton insolent et rageur. Madame Malissé n'était point femme à se laisser intimider par ses arrogantes manières, et, lui barrant résolument la route, elle s'écriait « Je crois m'apercevoir que vous n'avez pas retrouvé ma fille. » « Non, madame. »« Mais c'est abominable !»« Trêve de criaillerie !» scandait le fermier général, et d'un ton sévère, il martela « Si, au lieu d'accepter les cadeaux de Mandrin, votre mari lui avait cassé la tête d'un coup de pistolet, votre fille ne serait pas aujourd'hui sa proie. »«
Permettez ?» hasardait Agénor.
« Je ne permets rien !» Et le fermier général, au comble de la fureur, ordonna d'un ton qui n'admettait pas de réplique « Allez-vous-en ! Si jamais je vous retrouve en ma présence, je vous fais remettre en prison tous les deux !» Et d'un pas saccadé, il rentra dans sa maison. Les époux Malissé échangèrent un regard consterné. Lorsque Thérèse, le saisissant au collet, s'écria en le secouant avec toute la vigueur dont elle était capable
« Tout cela, c'est de ta faute !»
« Comment c'est de ma faute ?» se défendait l'entreposeur. Et, abandonnant son mari pour se retourner vers Martine, la bouillante Thérèse ordonna « Allons faire nos paquets et retournons à Beaujeu, car M. d'Érigny serait parfaitement capable de nous renvoyer en prison, ainsi qu'il nous en menaçait, et mieux vaut ne pas demeurer à portée de ses coups. » Quelques instants après, les Malissé quittaient le château des Aigles par une porte de service. Quant à Pistolet, il n'était pas demeuré inactif. Dès son retour, il s'était fait ouvrir la porte de la salle basse, aux fenêtres garnies de solides barreaux qui servaient de prison à Thiénot. Jeanne d'Estenave, assise sur un banc, le dos appuyé à la muraille, les traits tirés, le visage blême, mais l'œil fixe et brillant, ne parut point s'apercevoir de sa présence. Du premier regard, l'exempt comprit que cette nuit d'isolement et de réflexion n'avait en rien brisé la volonté de la prisonnière et qu'il allait avoir encore à livrer une rude bataille. En effet, en acceptant d'aider Mandrin à enlever Nicole, Jeanne d'Estenave, contrairement au raisonnement de l'exempt, n'avait nullement cédé à l'une de ces impulsions qui se manifestent parfois chez une femme dont l'amour trouble la raison. Elle n'avait fait que suivre un plan nettement établi dans son esprit et qui, pour si subtil qu'il fût, n'en était pas moins basé sur une rigoureuse logique, renforcée d'une orgueilleuse et secrète espérance. Jeanne d'Estenave connaissait trop bien le caractère de Mandrin pour être convaincue qu'ayant décidé l'enlèvement de Nicole, rien ne l'empêcherait de réaliser son but. Si elle refusait de l'accompagner dans cette expédition, après tous les serments de fidélité qu'elle lui avait faits, après toutes les promesses de dévouement qu'elle lui avait données, n'était-ce pas lui faire comprendre clairement qu'elle l'aimait? Donc, en se posant en rival de Nicole, elle allait au-devant du sacrifice le plus terrible qui pût lui être imposé, c'est-à-dire vers une séparation éternelle de celui qu'elle adorait de toutes les forces de son âme farouche et passionnée. Entre les deux douleurs, elle avait mieux aimé choisir peut-être la plus cruelle, mais la moins irréparable. Et, plutôt que de se voir à jamais exilée, elle avait eu le grand courage de servir son maître aussi loyalement dans ses aventures amoureuses qu'elle l'avait fait dans son œuvre de justicier. Pour atteindre son but, elle avait renoncé à employer certains procédés de ruse et de patience auxquels son premier mouvement de dépit passé, elle avait tout de suite songé. Préférant ne compter que sur elle-même, elle ne cessait de se répéter « Cette fille de bourgeois ne pourra pas s'assujettir longtemps à l'existence qui attend la compagne de Mandrin. Dans l'impossibilité de le suivre en ses expéditions périlleuses, elle demeurera seule au château de Rochefort, dévorée d'angoisse, rongée d'ennui. Et je doute que son amour, si grand soit-il, et qui ne peut être que celui d'une jeune fille sans défense, résiste longtemps à une pareille épreuve. Tandis que, moi, je serai toujours là, près de lui, à ses côtés, et, fatalement, il finira d'autant mieux par s'apercevoir que je suis une femme, que je ferai tout pour le lui faire oublier. » Tel était l'état d'âme de Jeanne d'Estenave avant qu'elle tombât entre les mains de Pistolet. Alors, un grand désespoir s'était emparé d'elle, car elle savait très bien que l'exempt ne lâcherait prise qu'en échange d'une trahison dont la seule pensée l'indignait jusqu'au paroxysme. Ainsi, tout était donc fini. Elle n'avait plus d'autre horizon que la mort précédée d'atroces supplices. Maintenant, c'était contre l'injustice du sort qu'elle se révoltait. Mais la présence de Pistolet allait apporter instantanément un puissant réconfort à sa volonté chancelante. Il n'en fallait pas plus, en effet, à une âme telle que la sienne, pour se retrouver, en face de l'adversaire, combative et résolue jusqu'à la mort. L'exempt s'avançait vers elle, le visage impassible, l'œil scrutateur et visiblement décidé à pousser à fond son attaque. « Avez-vous réfléchi ? » demanda-t-il d'une voix dénuée, cette fois, de toute hypocrite bienveillance. « Oui, » répliqua Thiénot d'un air sombre. « Et alors ? Rien. Vous tenez donc à être pendu. La vie, maintenant, m'est indifférente. Vraiment. Et je ne demande qu'une chose, c'est d'en finir le plus tôt possible. Oh ! N'allons pas si vite. Pourquoi ? Il me semble qu'en ce moment, vous oubliez une chose très importante. Laquelle ? Vous appartenez à la justice. Or, la justice est une personne extrêmement curieuse, autant par nature que par profession. Elle va donc chercher à obtenir de vous les renseignements dont elle a besoin. Et après vous avoir interrogé avec impartialité, si vous refusez, comme à moi, de lui répondre, elle se verra dans la fâcheuse nécessité de vous soumettre à d'autres questions. À la torture, interrompit Thiénot. Vous m'en avez déjà menacé, et m'avez-vous vu frémir ? Je sais que vous êtes obstiné, mais les forces humaines ont des limites. Et mieux ne vaudrait-il pas pour vous entrer tout de suite dans la voie d'aveu que ne manqueront pas de vous arracher certaines pratiques auxquelles on ne résiste guère ? À ces mots, Thiénot se dressa devant l'exempt et, tout en le dévisageant, avec une expression de mépris souverain et de force indomptable, elle s'écria « J'ai assisté un jour au supplice d'un homme accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Pour arrêter les souffrances atroces qui lui étaient infligées et pour voir commuer la peine de la roue, à laquelle il avait été condamné, en un séjour de quelques années sur les galères, il lui eut suffi de s'écrier « Je suis coupable ». Il ne l'a pas voulu. Et il a mieux aimé souffrir 1000 morts plutôt que de laisser à sa femme et à sa fille un nom déshonoré. Cet homme, monsieur l'exempt, c'était mon père. Son nom ? Je ne vous le dirai pas. Sachez seulement que je supporterai avec le même courage toutes les tortures que votre justice m'infligera, car moi aussi je ne veux pas me déshonorer en trahissant celui auquel j'ai juré ma foi, et j'aime mieux mourir de douleur que de honte. »
Comment avez-vous connu Mandrin ? Interrogeait Pistolet, que ce noble et fier défi semblait laisser indifférent.
Cette fois, Tiennos se renferma dans un farouche silence, et l'exempt, s'approchant tout près d'elle, fit en la fixant bien dans les yeux
« Tu l'aimes donc, pour t'être ainsi attaché à lui ?»«
Je ne l'aime pas, » répliquait Jeanne d'Estenave, « mais je lui suis dévoué jusqu'à la mort, et même jusqu'au point de l'aider à enlever la femme qu'il adore. » Cette fois, la contrebandière ne put réprimer un tressaillement, et l'homme noir, comprenant qu'il avait touché juste, fit en posant ses deux mains sur ses épaules et en la dévorant de son regard ardent.
« Allons, avoue que tu en es folle !»
Jeanne, se dégageant brusquement, s'écriait
« Non, 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 je ne l'aime pas, je ne l'aime pas !»«
Si tu ne l'aimes pas, aide-moi au moins à le prendre.
Jamais !» ripostait Jeanne d'Estenave avec un tel accent que l'exempt comprit qu'il se heurterait à un de ces murs contre lesquels tout son entêtement et toute sa brutalité ne pouvaient que se briser.
« C'est bon, » conclut-il, « tu l'auras voulu. »
Et il sortit, lentement, non sans avoir adressé un coup d'œil terrible à la malheureuse qui, dès qu'il eut disparu, se laissa tomber sur un escabeau en murmurant « Mandrin, Mandrin, ne viendras-tu pas à mon aide ?» En quittant Tiennot, Pistolet gagna la cour du château, se dirigeant vers un sergent de la maréchaussée en train de bavarder avec une vieille paysanne qui portait un paquet de linge sur ses épaules. Et, d'un ton impératif, il lui ordonnait « Dès demain, sergent Cornebise, au lever du jour, vous emmènerez sous bonne escorte le complice de Mandrin que nous avons fait prisonnier jusqu'à la brigade de Saint-Martin, qui se chargera de le transférer au présidial de Grenoble. D'ici là, faites bonne garde. Mandrin ou ses amis ont peut-être formé le projet de délivrer leur compagnon. Avec un tel gredin, il faut s'attendre à tout. Monsieur l'exempt, comptez sur moi. D'ailleurs, pour plus de sécurité, au lieu de prendre la grande route de Grenoble, nous passerons par le chemin des Chirolles et nous gagnerons la brigade de Saint-Martin par la sente de la Grande Combe. Et, en admettant que Mandrin ait manigancé quelques mauvais coups, nous serons sûrs, de cette façon, qu'il rentrera bredouille.
« Fort bien !» approuvait Pistolet, qui s'éloigna aussitôt.
Alors la blanchisseuse, qui avait déposé son paquet à terre, et semblait très occupée à compter son linge, murmura avec un sourire de satisfaction qui éclaira son visage brûlé par les grands vents de la montagne. « Mandrin, bredouille, tu crois ça, mon vieux gendarme ? Eh bien, m'est avis que tu te mets le doigt dans l'œil et ton bras avec tous les galons qu'il y a sur ta manche. » Et, rechargeant son ballot sur son dos, avec une vigueur assez surprenante de la part d'une femme aussi âgée, elle quitta la grande cour et, d'un pas d'abord clopinant, mais bientôt accéléré, elle se perdit dans la campagne.